Sentir sans juger ni interpréter.
C'est notre vieille habitude de penser plutôt que de ressentir qui prime. C'est un vieux réflexe. Il n'est pas irrécusable. Si nous voulons donc davantage nous renseigner sur nous-mêmes pour savoir ce que nous vivons vraiment par rapport à une situation, nous avons intérêt à écouter notre sentiment en le formulant comme ceci. Je me sens inquiet, triste, etc. C'est le sentiment qui va nous aider à identifier notre besoin et, ce faisant, nous permettre de nous situer par rapport à une situation ou une personne sans la juger, sans la critiquer et sans nous décharger sur elle de la responsabilité de ce que nous vivons. Tant que nous attribuons à l'autre la responsabilité de ce que nous vivons, nous nous déresponsabilisons. Tant que nous lui donnons les clés de notre bien-être et de notre mal-être, nous nous piégeons. Il est donc bien utile de différencier, dans le vocabulaire des sentiments, ceux qui comportent une interprétation ou un jugement sur ce que l'autre dit, fait ou est. En effet, très souvent, croyant parler au « je », en prenant la responsabilité de notre sentiment, nous employons des mots considérés couramment comme des sentiments tels que « je me sens trahi », « abandonné », »,« manipulé », »,« rejeté ». Or, il est sûr que ces mots-là expriment des sentiments, mais ils véhiculent en même temps une image sur l'autre, une interprétation, un jugement. En filigrane, il est sous-entendu « tu es un traître, un manipulateur, tu m'abandonnes, tu me rejettes ».
Il y a deux avantages à différencier les sentiments vrais des sentiments comprenant une interprétation.
Le premier avantage a trait à notre souhait de cheminer vers nous-mêmes le plus sûrement possible en renonçant au scénario de victime et de plainte. Plus notre langage, et donc notre conscience qui s'y exprime, sera délivré de cette dépendance à ce que l'autre fait ou ne fait pas, plus nous aurons l'occasion de prendre conscience de nos besoins et de nos valeurs et de nous prendre en main pour les valoriser. Il faut alors faire un travail d'apprivoisement qui peut prendre quelque temps jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise d'exprimer son besoin, d'en parler, de le commenter, de le nuancer, c'est-à-dire de le comprendre. Comprendre, c'est faire sien. Je vis toujours ces moments, qu'ils soient faciles ou difficiles, comme des moments sacrés. La personne se réapproprie sa vie, se recentre, et se rassemble, se cueille et se recueille. Et n'est-ce pas sacré pour elle de redevenir en vie et en envie, de constater que la vie l'habite et l'anime, qu'elle peut se mettre à son écoute et se laisser guider par elle. Dans le travail d'accompagnement thérapeutique, que l'on peut voir peut-être comme une tentative de résolution du conflit qui intervient entre le conscient et l'inconscient, c'est cette parole que l'on cherche ensemble, pas pour la parole en soi, bien sûr, mais pour la conscience qu'elle libère. Je l'ai vu, en 2 années d'accompagnement, passer de la victimisation et de sa dépendance à l'alcool, à son succès auprès des femmes et dans sa carrière professionnelle, à l'autonomie et à la responsabilité. Dans les tentatives quotidiennes de résolution des conflits de tous les jours, la recherche de la parole vraie aura le même avantage. Éclairer notre conscience quant aux vrais enjeux qui sous-tendent les enjeux apparents et stimuler notre responsabilisation. Le second avantage qu'il y a à différencier les sentiments vrais des sentiments teintés d'interprétation, est que cela nous permet de nous faire bien comprendre par l'autre grâce à des mots qui suscitent le moins possible l'inconfort, la peur, la résistance, l'opposition, la contradiction, l'argumentation et la fuite. Rappelons-nous que notre intention est la qualité de la rencontre avec l'autre. Nous ne souhaitons pas seulement que l'autre entende nos mots, nous souhaitons qu'il écoute ce qui se passe en nous. Tout comme lorsque nous l'écouterons à notre tour, nous ne souhaiterons pas seulement entendre les mots qu'il dit, mais écouter ce qui se passe en lui.